Les podcasts du Collège de France.
Et donc, nous avons maintenant le premier exposé de cet après-midi qui est donné par M. Bowler de l'École normale supérieure qui va nous parler de Haeckel et l'évolution. M. Bowler, voilà.
Bonjour, bon après-midi à tout le monde. Chers collègues, c'est un plaisir, je suis fier d'être parmi vous cet après-midi, de vous raconter deux choses sur la vie microscopique des océans, qu'on trouve dans les océans. Vous avez là une image de ce que je vais parler aujourd'hui, la vie microscopique qui était étudiée en partie par un certain Haeckel, Ernst Haeckel, que comme vous savez, il a fait des très bonnes, très belles images du plancton qu'il a trouvé dans les lacs, dans les océans autour du monde. Il a fait des très belles images, comme vous le savez, mais son impression, c'était que bon, le plancton, ils sont très très jolis, mais sans aucune importance pour la vie sur notre planète. Aujourd'hui, on a changé un peu notre vue sur le plancton. Et on sait en fait que le plancton est responsable pour une moitié de la photosynthèse sur la planète, c'est-à-dire une moitié de l'oxygène que vous respirez dérive du plancton qu'on trouve partout dans les océans du monde. Mais en fait, l'apparition des organismes microscopiques, des organismes modernes, c'est relativement récent qu'on voit pendant le temps. Les organismes, les espèces de plancton qu'on trouve aujourd'hui, qui sont appelés les diatomées, les aptophytes, les dinoflagellés, ils sont évolués relativement récemment. Autour de 100 millions d'années, par exemple, pour les diatomées, qui est beaucoup plus récent par rapport aux organismes métazoaires, par exemple. Vous voyez là les changements en nombre d'espèces pendant le temps. Vous voyez, les diatomées sont les organismes les plus dominants aujourd'hui dans les océans. Et ils ont survécu, ils n'étaient pas trop touchés par les cataclysmes, par exemple, fin Crétacé, qui a tué les dinosaures, par exemple. Donc, ils sont relativement bien adaptés aux océans d'aujourd'hui. Et en fait, ils sont responsables, comme je disais, pour une moitié de l'oxygène qui est produit chaque année sur la planète. À part la photosynthèse, ils ont aussi un rôle extrêmement important pour le bien-être de notre planète, parce qu'ils sont responsables pour stocker le CO2 au fond des océans. Ça, c'est parce que quand elles meurent, les cellules, parce qu'elles sont lourdes, elles ont la tendance de tomber jusqu'au fond de l'océan. Alors, ils sont le puits à carbone le plus important sur la planète. Le puits. C'est correct, non? En français? Donc, le puits à carbone le plus important sur la planète, en fait. Donc, ce n'est pas seulement le fait qu'ils font la photosynthèse, qu'ils produisent de l'oxygène que tout le monde respire. C'est aussi l'importance de séquestrer le CO2 de l'atmosphère, de l'emporter jusqu'au bout, jusqu'au fond des océans. Et en fait, ça, c'est le puits à carbone, il s'appelle le biological carbon pump, la pompe biologique du carbone. C'est le plus important sur la planète. Et c'est à l'origine du pétrole, par exemple. La plupart du pétrole qu'on utilise avec notre passion dérive des organismes qui sont tombés pendant les millions d'années. Vous voyez l'importance de la puits à carbone aussi si on regarde, par exemple, les structures comme les falaises de Douvres. Si on gratte la surface, on voit en fait qu'ils ne sont pas autres que les coccolithophores, des organismes de plancton, qui ont tombé pendant les millions d'années, qui ont formé des structures énormes, comme les falaises de Douvres. Donc, avec ce petit tour, la vie microscopique des océans, même si c'est invisible à l'œil nu, c'est essentiel pour le bien-être de la planète, pour séquestrer la CO2, générer l'oxygène, et pour contrôler, pour influencer plusieurs aspects très importants pour le fonctionnement de notre planète, y compris les chaînes alimentaires des océans. Donc, pour retourner un instant à Haeckel, il avait tort dans ce aspect. Les opinions de Haeckel sur l'importance du plancton n'étaient pas trop correctes, on peut dire. Mais même de toute façon, ce qu'il a fait avec elle, c'était d'extrême importance pour la culture. Comme vous savez, les dessins d'Haeckel du plancton, ils ont inspiré de l'architecture. Ça, c'est l'entrée du Exposition mondiale de Paris en 1900. Je pense que ça, c'est Pont Alexandre III, le Grand Palais derrière. Ça, c'est clairement inspiré par les dessins de Haeckel du plancton. Donc, il a fait quand même des très grandes choses, Monsieur Haeckel. On passe donc à Monsieur Darwin, qui est un peu le sujet d'aujourd'hui. Je vais parler un peu de son inspiration sur ce qu'on on étudie dans le laboratoire, mais aussi des autres collègues que je dois. Je me sens de mentionner aussi parce que ces caractères-là, ils ont aussi influencé énormément notre manière de penser. Sur la vie dans les océans. Donc, mon laboratoire travaille au niveau à l'échelle des génomes. On essaie de comprendre la fonction, l'évolution du phytoplancton à travers des gènes, des traces de l'évolution qu'on trouve dans les génomes des phytoplanctons. Et je vais donc parler de ça. Je commence par les avancées obtenues par les études sur les diatomées. Là, vous voyez quelques images des diatomées. Ils sont le groupe de phytoplancton, probablement le plus important dans les océans. Responsable pour une cinquième de l'oxygène sur la planète. Et comme vous voyez ici, ils sont revestis en silicium, c'est-à-dire en verre. Ils sont des cellules unicellulaires extraordinaires avec plusieurs morphologies caractérisées par une paroi en verre. On a aujourd'hui obtenu deux génomes entièrement séquencés de ces organismes que vous voyez là. Le premier diatomée séquencé, c'était Thalassiosira sudanana. Et l'autre, le deuxième, c'est Feodactylum tricornutum. Comme vous voyez, ils ont des structures, des morphologies très différentes. Chacun de ces organismes, il contient une trentaine de mégabases de génome, d'ADN. Et dans chaque génome, on trouve environ 10 000 gènes. Donc, première conclusion de ces études, il faut à peu près 10 000 gènes pour construire des diatomées. Alors, une fois qu'on a obtenu les génomes entièrement séquencés, on peut demander si on peut trouver les éléments pour répondre aux questions très importantes. Par exemple, comment on peut expliquer la diversification extraordinaire des diatomées qu'on trouve sur la planète aujourd'hui? On trouve à peu près 150 000 espèces de diatomées. Ça, c'est une estimation, bien sûr. Mais c'est une diversité énorme que, bon, qui est arrivée très rapidement pendant 100 millions d'années d'évolution, qui n'est pas trop long. Donc, pour répondre à cette question, on peut faire des analyses très simples. On peut prendre les gènes orthologues des deux diatomées, des paires de gènes qui sont similaires, qui sont homologues. On peut comparer leur diversité au niveau moléculaire, au niveau de séquences acides aminés. Et on peut faire les comparaisons entre les diatomées. Et ce qu'on sait chez les levures, les hémoascomycètes, et chez les métazoaires. Et quand on fait cette espèce de comparaison, on voit en fait les diatomées, ils sont divergentes au niveau de 60% d'identité dans leur protéine séquence acide aminé entre eux, qui correspond à peu près à ce qu'on trouve entre l'homme et les poissons. Donc, la divergence, même s'ils sont les diatomées, tous les deux, la divergence, c'est comparable à l'homme poisson. Ça, ils ont diversifié ces deux espèces de diatomées, peut-être il y a 100 millions d'années. Par rapport aux métazoaires qui ont diversifié le poisson et l'homme probablement autour de 550 millions d'années. On peut conclure donc que la diversification, l'évolution chez les diatomées est au moins 5 fois plus vite que chez les métazoaires. C'est très intéressant aller comprendre pourquoi il y a cette énorme différence en taux d'évolution. Je n'ai pas le temps de traiter ce sujet aujourd'hui, mais je serai heureux de discuter après, éventuellement. Mais ce que je veux dire, je voudrais poser les questions alors d'où viennent les gènes des diatomées? Avec la séquence entière des génomes, j'aimerais d'aborder cette question de l'origine de ces gènes. À mon avis, c'est une question importante parce qu'en fait, les diatomées sont très divergents par rapport aux organismes qu'on étudie plus habituellement, des organismes eucaryotes. Les plantes qu'on trouve là, dans ce groupement des eucaryotes, et des animaux, les champignons, qu'on trouve chez les opisthocons. Donc, les diatomées, on trouve dans un mélange des organismes qu'on classifie comme hétérocontes. On ne sait pas trop bien leur origine, mais c'est clair qu'ils sont très divergents par rapport aux plantes et aux animaux. Donc la question, il faut vraiment poser d'où viennent les gènes des diatomées. La différence surtout entre avec les plantes, c'est dû, on pense, au fait que les diatomées dérivent de ce qu'on appelle une endosymbiose secondaire qui les distingue des plantes supérieures et des algues vertes qui dérivent d'une endosymbiose primaire. Donc l'endosymbiose primaire, c'est l'association, l'invasion d'une cyanobactérie dans une cellule eucaryote, comme une levure, par exemple, qui donne l'origine aux organismes, aux eucaryotes photosynthétiques qu'on sait aujourd'hui, qui ont donc une plaste, une chloroplaste, où on trouve la photosynthèse, et un noyau, une mitochondrie, bien sûr. Les diatomées, par contre, on hypothèse qu'ils dérivent d'une endosymbiose secondaire où il y a une algue eucaryote, probablement c'était une algue rouge, qui s'est associée une deuxième fois avec une autre cellule eucaryote hétérotrophe. Donc, pendant l'évolution de ces organismes, on a eu un mélange des génomes et au point de départ, on a commencé avec deux noyaux, deux génomes mitochondriales et un génome du plast. Alors, la question qu'on pose, c'est donc si on peut trouver des traces de ce endosymbiose secondaire dans les gènes des diatomées qu'on trouve aujourd'hui. Pour répondre à cette question, on peut prendre des gènes, les 10 000 gènes d'une diatomée et faire une comparaison avec une plante et avec un animal, souris par exemple. Et ici, on voit un peu la distribution de tous les milliers de gènes qu'on trouve chez les diatomées. On voit qu'il y a un certain nombre, peut-être 2000, une chose comme ça, qu'on trouve seulement chez les plantes, qui sont des gènes qu'on ne trouve jamais chez les animaux. Donc ça, c'est un résultat attendu. Ils sont des gènes pour la photosynthèse, par exemple. Comme vous bien le savez, les animaux ne font pas la photosynthèse. Ce qui était étonnant, qui était bien de voir, intéressant de voir, c'était par contre qu'il y a un nombre similaire, un numéro similaire de gènes qu'on peut définir animal-like, des gènes qu'on trouve seulement chez les animaux, qu'on n'a jamais trouvé avant les diatomées, chez un organisme photosynthétique. Et probablement, c'est donc ça qui reste le trace de cette association au début, à l'origine des diatomées. Et les gènes des animaux qu'on ne trouve pas chez les plantes, probablement, ils dérivent de ce noyau, le N2, qui n'a rien à faire avec l'évolution des plantes. Donc, probablement, ils sont des gènes qui dérivent de ce noyau que, pendant le temps, ils se trouvent aujourd'hui dans le génome des diatomées. Donc, ça, c'était bien de voir évidence pour qui conforte la théorie de l'endosymbiose secondaire à l'origine des diatomées. Mais il y avait quand même des surprises. La première surprise, c'est qu'on a trouvé des centaines de gènes chez les diatomées qui dérivent probablement des transferts horizontaux des gènes à partir des bactéries. Typiquement, on trouve évidence pour une dizaine, douzaine de gènes qui dérivent des transferts latéraux des gènes des bactéries chez les eucaryotes, mais chez les diatomées, probablement il y a plus de 5% de leur génome est composé des gènes des bactéries. Beaucoup de ces transferts latéraux, ils sont très, très anciens parce qu'on trouve les mêmes gènes dans les deux espèces des diatomées. Donc, clairement, le transfert des gènes à partir des bactéries, c'était très, très ancien. Donc, on a évidence très forte pour au moins 587 gènes de Pheodactylum qui dérivent des bactéries. On les trouve partout dans le génome. Et ils sont dérivés de plusieurs espèces de bactéries marines, y compris les gamma, delta, alpha proteobactéries, des diazotrophes et aussi des archaea, des archébactéries. Donc,
qu'est-ce qu'ils mangent les planctons?
Qu'est-ce qu'ils mangent les planctons? Ils sont des zooplanctons, des petits animaux qui mangent le phytoplancton. Et ça, c'est à la base de chaîne alimentaire. Ils sont photosynthétiques. Ils sont photosynthétiques, donc ils utilisent la CO2 comme les plantes. Ils ont besoin des nutriments, ils ont besoin de la lumière et de CO2, voilà. Et de... Donc ça c'est la première surprise qu'on a trouvée dans le génome. À l'origine des gènes bactériens chez les diatomées, probablement c'est dû à les associations très intimes qu'on avoue entre les diatomées et des bactéries. Ça, c'est une diatomée marquée avec une sonde... avec une sonde pour l'ADN bactérienne. Et on voit les bactéries à l'intérieur de cette cellule de diatomée. Même au niveau de microscopie électronique, on voit la même chose. Donc, le transfert des gènes précoces à partir des bactéries, probablement, c'est dû à ces associations très intimes entre les bactéries et les diatomées en nature, dans l'écologie. Une deuxième surprise, c'était qu'on a trouvé évidence pour un troisième partenaire dans l'endosymbiose secondaire. Cette évidence, il dérive des gènes des diatomées qui s'associent plus fortement avec des gènes des algues vertes et pas avec des gènes des algues rouges, qui est attendu par la théorie d'endosymbiose secondaire. Si on fait cette espèce d'étude de phylogénie au niveau génomique, on trouve en fait qu'il y a plus de 1500 gènes qui ont une origine plus proche aux algues vertes qu'aux algues rouges. Qui nous laisse hypothéser que peut-être à l'origine des diatomées, il y a un troisième partenaire qui était une algue verte. Donc, en conclusion, l'origine des diatomées, avec les analyses des génomes que j'ai résumées, on postule aujourd'hui un mariage atypique avec trois partenaires, une espèce de ménage à trois, si vous voulez. Donc, une algue verte, une algue rouge et une cellule eucaryote qui, dans le temps, les génomes des trois partenaires, ils se sont harmonisés pour créer des diatomées qu'on connaît aujourd'hui d'être très, très abondant et d'avoir un particulier succès. La diversification des diatomées pendant le temps c'est sûrement dû à l'acquisition des gènes des bactéries qui ont été acquis pendant l'histoire évolutionnaire des diatomées. Donc, clairement, la mélange de ce cocktail des gènes vous pouvez imaginer, qui porte de nouvelles possibilités métaboliques que normalement on ne trouve pas chez les cellules. Je voudrais juste vous donner quelques exemplaires de ça. Si on voit le blueprint de métabolisme des diatomées, vous voyez là la mitochondrie, le cytosol, le peroxysome à la plaste. Des choses étonnantes qu'on a aperçues sont, par exemple, la présence d'une pathway pour l'oxydation des lipides chez les mitochondries. Ça, c'est pas du tout quelque chose qu'on trouve chez les plantes. C'est une caractéristique animale. Et ça distingue, en fait, l'utilisation des molécules de ressources des organismes. Vous savez bien, les plantes utilisent les carbohydrates, l'amide, comme ressource, comme magasin, pour stocker du carbone. Les animaux, vous connaissez, certains de nous connaissent bien qu'on utilise les gras pour stocker du carbone. Les diatomées, ils utilisent tous les deux. Donc, ils ont pris le meilleur système de tous les deux côtés et ils utilisent les deux qui probablement donnent quelques avantages pour survivre dans les conditions de carence. Un autre exemplaire, c'est d'un métabolisme très, très mélangé, c'est la présence d'un cycle ioré chez les diatomées. Ça, c'est autre caractéristique classique des métazoaires. Les plantes n'ont pas un cycle de ioré, ne savent pas comment faire ioré. Ça, c'est aussi important pour le stockage d'azote en situation de carence dans les océans. Donc, ça donne juste deux exemplaires de ce que ce mélange des gènes peut faire pour garantir un succès des diatomées dans les océans d'aujourd'hui. Le dernier point que j'aimerais aborder, c'est le rôle éventuellement de l'environnement dans l'évolution des diatomées. Donc, notre idée aujourd'hui, c'est pour l'évolution d'un écosystème, c'est l'interaction environnement avec la physiologie d'une cellule qui détermine éventuellement l'adaptabilité ou le fitness d'un certain organisme, d'une certaine espèce par rapport aux autres. Une théorie très centrale pour ce qui concerne les interactions environnement-organisme pour des bactéries, c'est la théorie de Bass-Becking qu'en 1934, il a dit, bon, everything is everywhere, but the environment selects. C'est-à-dire, tout est partout, mais c'est l'environnement qui sélectionne. Autrement dit, on trouve les mêmes organismes partout, mais c'est juste l'environnement qui décide quelle espèce, quel organisme devient l'espèce dominante dans un certain endroit. analyse de la biodiversité microbienne à travers des séquençages à grande échelle. Ils ont donné confort à cette hypothèse. On voit, par exemple, dans une biosphère typique qu'il y a des organismes dominants. On trouve 5-10 espèces le plus dominant. Et après, il y a une queue très, très longue ici. Et ça, donc, selon les microbiologistes, c'est the everything. La partie everything qui est partout. Dans un autre environnement, ça peut être une autre espèce, une autre souche, un autre écotype qui prend la dominance. Et chez un autre environnement, ça peut être un autre génotype qui prend le rôle d'être dominant. Donc, l'idée des microbiologistes, c'est les résultats des microbiologistes qui font des analyses de séquençage à grande échelle sur les communautés bactériennes, ils donnent confort à cette hypothèse que tout est partout, mais c'est l'environnement qui sélectionne. Mais l'environnement, dans ces modèles-là, c'est l'environnement qui sélectionne de la variation qui existe déjà dans la population. Il faut aussi poser la question, c'est l'environnement peut-il aussi jouer un rôle causal dans la génération de la diversité? Je veux prendre juste un exemplaire de ça, l'exemple des éléments transposables, de ce qu'on a trouvé chez les phytoplanctons, les diatoméens en particulier. On a trouvé, alors chez les diatoméens, une classe des éléments transposables de la famille Copia, que je montre ici, qui sont présents chez les diatoméens, qu'on ne trouve pas chez les autres organismes. Les éléments transposables de famille Copia, chez les animaux, chez les plantes, chez les champignons, on trouve là. Mais vous voyez, les diatoméens, ils ont des autres espèces d'éléments transposables bien uniques, spécifiques pour les diatoméens. On a étudié deux éléments transposables en particulier qui sont appelés Blackbeard et Surcouf. Blackbeard, donc, un pirate anglais. Surcouf, un corsaire français beaucoup plus débonnaire. Vous voyez, pas du tout le même genre de caractère, je pense. Donc, on a étudié deux éléments transposables qu'on a appelés Blackbeard et Surcouf. Et le fait intéressant de ces éléments transposables, c'est qu'un des deux, Surcouf en particulier, c'est activé par les conditions de stress, conditions qui provoquent la mort programmée cellulaire chez les diatoméens. Et l'autre élément transposable, Blackbeard, c'est activé par la carence en nitrate. Vous voyez, l'activation, c'est plutôt spécifique pour ces conditions-là. Et on a trouvé, en analysant plusieurs souches de Theodactylum qu'on a obtenues dans différents endroits autour du monde, on a trouvé en fait que l'élément Blackbeard, il a sauté spécifiquement autour de la Manche avant 1910, qu'on ne trouve pas l'élément Blackbeard dans les autres souches, dans les autres écotypes qu'on a étudiés dans le laboratoire. Donc, cette étude-là, il donne l'idée que peut-être c'est un exemplaire peut-être de comment l'environnement peut activer des changements sur l'échelle de la génome en activant des éléments transposables. Il y a des autres exemplaires des comportements des éléments transposables chez les phytoplanctons qui sont aussi surprenants, à mon avis. Ici, on a les génomes, les chromosomes d'une autre espèce de phytoplancton. Ils sont des organismes qui s'appellent prasinophytes, ce n'est pas important. Mais là, vous voyez les chromosomes des prasinophytes. Il y a deux chromosomes qui sont clairement différents. Voilà. Les deux chromosomes-là, ils sont énormément enrichis en éléments transposables qu'on ne trouve pas chez les autres chromosomes. Et en fait, tous les prasinophytes qui ont été séquencés jusqu'à aujourd'hui, ils ont toujours deux chromosomes qui sont énormément enrichis en éléments transposables et en gènes des bactéries. Et on hypothèse aujourd'hui qu'ils sont des chromosomes sexuels, en fait, importants pour la spéciation de ces organismes-là. Dernier exemplaire, c'est toujours chez les prasinophytes. Faisant une comparaison entre deux écotypes des prasinophytes, on trouve chez un des deux, il y a la présence des éléments transposables dans les introns des gènes. Et l'arrivée des introns, c'est clairement associé. L'arrivée des éléments transposables, c'est clairement associé à l'arrivée des introns chez les gènes dans ce écotype-là et pas dans l'autre. Et ça, c'est juste un exemplaire, mais on trouve ça partout dans le génome de ce écotype-là et pas du tout chez l'autre. Donc, ça donne aussi une indication que l'activité, le fonctionnement des éléments transposables, c'est peut-être très important en milieu marin. Et si on réfléchit, en fait, c'est facile d'imaginer que l'importance des mutations provoquées par l'insertion, l'activité des éléments transposables chez les cellules unicellulaires, c'est encore plus important que chez les organismes multicellulaires qui ont été étudiés jusqu'à aujourd'hui. Donc, en résumant, j'espère vous avez vu qu'il y a plein de choses à découvrir dans les océans. Et dans ce esprit-là, je participe à un projet d'une expédition en bateau à voile autour du monde, une expédition sur 3 ans qui propose d'aller étudier les écosystèmes planctoniques partout. Le projet est parti, l'expédition est partie il y a un mois. Et il s'appelle Tara Ocean. C'est soutenu par Agnès B., United Nations, CNRS, EMBL. Et c'est inspiré par Darwin, le Beagle, bien sûr, mais c'est aussi inspiré par l'expédition du Challenger au 9e siècle, qui était en fait la première expédition océanographique qui était à l'origine des organismes que Haeckel a utilisés pour beaucoup de ces images, de ces dessins. Donc, je termine là. Je vous remercie pour votre attention.